Chapitre 10. La noyée. Jonalina roule sur Flemingatan en direction de l'Institut Karolinska à Solna. Il repense au corps de Karl Palmkrona, au fil à linge tendu sous le poids du cadavre, à la mallette sur le sol. Il essaie de visualiser les deux séries d'empreintes autour du défunt. L'affaire est loin d'être résolue. Jona bifurque sur Clara Strandsleden vers Solna. Il longe le canal. Les arbres sont déjà tout en fleurs et leurs branches plongent vers la surface miroitante de l'eau. Il a un souvenir très précis d'Edith Schwartz, la femme de ménage. Il revoit les veines sur ses mains imposantes, tandis qu'elle tenait des cartons remplis de nourriture. Il se remémore également la façon dont elle lui a répondu que les mains secourables ne manquaient pas. Les bureaux du service médico-légal se trouvent au 5 rue Retzius. Le bâtiment en briques rouges est entouré par plusieurs grands complexes, au milieu des arbres et des pelouses soignées du vaste campus de l'Institut Karolinska. Jona se gare dans le parking vide réservé aux visiteurs. Il constate que le rebord en pierre n'a pas dissuadé le légiste Nils Ohlen, alias l'aiguille, d'aller garer sa Jaguar blanche sur la pelouse près de l'entrée principale du bâtiment. Jona fait signe à la réceptionniste qui lui répond en levant le pouce. Dans le couloir, il frappe à la porte du bureau de l'aiguille avant d'entrer. La pièce est, comme toujours, dépourvue de tout objet superflu. Les murs blancs réfléchissent la lumière qui s'infiltre entre les lattes des stores baissés, tandis qu'elle semble être absorbée par les plaques d'acier brossées. L'aiguille porte des lunettes d'aviateur aux montures blanches et un polo blanc sous sa blouse. « J'ai collé une amende à une Jaguar mal garée, » dit Jona. « Tu as bien fait, » répond l'aiguille. Jona s'arrête au centre de la pièce et reprend une expression plus sérieuse. Ses yeux sont d'une couleur gris sombre. « Il est mort comment en réalité ?» demande-t-il. « Palmkrona ?»« Oui. » Le téléphone sonne. L'aiguille tend le rapport d'autopsie à Jona. « Ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour avoir la réponse, » dit-il avant de décrocher. Jona s'assied sur une chaise en cuir blanc en face de lui. L'autopsie du corps de Karl Palmkrona est terminée. Jona en feuillette le rapport et consulte quelques points au hasard. 74. Les reins pèsent un total de 290 grammes. Leur surface est lisse, le tissu est rouge-gris, leur consistance est ferme, élastique, leurs contours sont distincts. 75. Les voies excrétrices paraissent normales. 76. La vessie est vide. La muqueuse pâle. 77. La taille de la prostate est normale. Le tissu est pâle. L'aiguille remonte ses lunettes d'aviateur sur son nez fin et courbé, termine sa conversation et lève les yeux sur Jona. « Comme tu vois, » dit-il dans un bâillement, « il n'y a rien de surprenant. Il est écrit ici que la cause de la mort est à classer dans la catégorie asphyxie ou étouffement. Dans le cas d'une mort par pendaison, il s'agit rarement d'un étouffement au premier sens du terme, mais d'une obstruction du flux sanguin dans les artères. Le cerveau n'est donc plus alimenté en oxygène. L'aiguille hoche la tête. Avec la compression des artères carotides, ça va évidemment très vite. On perd connaissance après quelques secondes. Mais il était en vie avant la pendaison? Oui. Son visage fin et soigneusement rasé trahit un léger ennui. « Est-ce que tu peux estimer la hauteur de la chute ?» demande Jona. « Il n'y a aucune fracture au niveau de la colonne cervicale ou à la base du crâne. Je dirais qu'il s'agit de quelques décimètres, tout au plus. »«
Ouais. »
Jona pense aux empreintes des chaussures de Palmkrona qui ont été retrouvées sur la mallette. Il parcourt à nouveau le rapport, jusqu'à ce qu'il tombe sur les pages consacrées à l'examen externe. Plus précisément, à l'étude de la peau du cou et les angles dessinés par la corde.
« À quoi tu penses ?» demande l'aiguille. « À la possibilité qu'il ait été étranglé avec le nœud et seulement ensuite pendu au plafond. »«
Non. »«
Pourquoi ?» rétorque Jona.
« Pourquoi ? Il n'y avait qu'un seul sillon et il était parfait, » explique l'aiguille. «
Quand une personne est pendue, la corde ou le fil creuse dans la chair, et ça, mais le meurtrier peut le savoir,
l'interrompt Yona.
Toujours est-il que c'est quasiment impossible à imiter. Tu vois, lors d'une mort par pendaison, le sillon que dessine la corde autour du cou doit avoir la forme de la pointe d'une flèche dirigée vers le haut, juste en dessous du nœud.
Puisque le poids du corps resserre la boucle.
Tout à fait. Et pour la même raison, la partie la plus profonde du sillon doit se trouver à l'exact opposé de la pointe.
Donc il est mort à la suite de la pendaison, constate Yona.
Aucun doute possible.
Le grand et maigre médecin légiste se mordit la lèvre inférieure.
Mais on a pu le forcer à se suicider ?
Demande Yona.
Pas de manière violente. Rien ne l'indique en tout cas.
Yona referme le rapport et tambourine doucement dessus. Cela signifierait donc que les insinuations de la femme de ménage suggérant qu'une autre personne a pu être impliquée dans la mort de Palmcrona ne sont pas dignes d'intérêt. Il demeure pourtant une incohérence. Yona ne peut ignorer le fait que Tommy Kufwed a distingué deux séries d'empreintes différentes.
« Tu es certain de la cause du décès ?»
demande Yona en regardant l'aiguille dans les yeux.
« Tu t'attendais à quoi ?»«
À ça, » répond Yona d'une voix hésitante en posant le doigt sur le rapport d'autopsie.
« C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Mais n'empêche, quelque chose me fait douter. »
L'aiguille affiche un sourire en coin.
« Prends le rapport. Ça te fera de la lecture pour ce soir. »«
Oui.
Franchement, je crois que tu peux laisser tomber Palmcrona. Tu verras que c'est un simple suicide, rien de plus palpitant. »
Le sourire de l'aiguille s'estompe et son regard s'éteint. Les yeux vifs de Yona témoignent au contraire de sa concentration.
Tu as sûrement raison.
Oui. Et on peut même aller plus loin si tu le souhaites vraiment. Karl Palmcrona était probablement déprimé. Ses ongles étaient négligés et sales. Il ne s'était pas brossé les dents depuis quelques jours et il était mal rasé.
Je vois,
dit Yona avec un hochement de tête.
Tu peux l'examiner si tu préfères.
Non, ce n'est pas la peine,
répond Yona en se levant avec lassitude. L'aiguille se penche vers lui et déclare d'une voix qui trahit son impatience.
« Ce matin, j'ai reçu quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu as quelques minutes ?»
L'aiguille se lève et lui fait signe de venir. Yona le suit dans le couloir. Un papillon bleu clair qui s'est égaré à l'intérieur volette devant eux.
« Le jeune a arrêté ?» demande Yona.
« Lequel ?»«
Celui qui était là avec la queue de cheval et... »«
Fripp ! Oh que non ! Je ne le permettrai pas !» Il est en congé. Il y avait un concert de Megadeth au Globen hier, avec Entombed en première partie.
Il traverse une salle sombre, où l'on distingue une table d'autopsie en inox. Une forte odeur de désinfectant domine les lieux. Ils poursuivent jusqu'à une pièce plus froide, où les cadavres sont conservés dans des compartiments réfrigérés. L'aiguille ouvre une porte et allume le plafonnier. Les néons clignotent et éclairent finalement une salle peinte à la chaux qui contient une table d'autopsie munie d'éviers doubles reliés à des tuyaux d'évacuation et recouverte de plastique. Sur la table repose le corps d'une très belle jeune femme. Elle a la peau bronzée et de longues mèches noires serpentent sur son front et sur ses épaules. Une lueur de surprise et de stupéfaction subsiste dans son regard lointain. Le dessin de ses lèvres lui donne presque un air espiègle, mais l'éclat de ses grands yeux foncés a disparu. De petites taches jaunâtres y apparaissent déjà. Yona observe la femme sur la table. Elle ne doit pas avoir plus de 19 ou 20 ans. Hier encore, elle n'était qu'une enfant qui dormait chez ses parents, une lycéenne. Aujourd'hui, elle est morte. Sur la peau du sternum, au-dessus de sa poitrine, se dessine une trace courbée d'environ 30 cm. Comme une bouche souriante peinte en gris.
« C'est quoi ce trait ?»
demande Yona en désignant la trace.
« Aucune idée. Peut-être la marque laissée par un collier ou le col d'un pull. Je l'examinerai plus tard. »
Yona fixe le corps inanimé, inspire profondément et, comme chaque fois qu'il est confronté à l'irréfutable accomplissement de la mort, il sent une grande tristesse l'envahir. La vie est si fragile. Les ongles de ses doigts et de ses orteils sont vernis d'une couleur rose-beige.
« Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? »
demande-t-il après un moment.
L'aiguille lui adresse un regard empreint de gravité. Ses lunettes scintillent lorsqu'il se retourne vers le corps.
La police maritime l'a apporté. On l'a retrouvée assise sur le pieu de la cabine avant d'un yacht qui dérivait dans l'archipel.
Morte ? L'aiguille rencontre à nouveau son regard et sa voix prend une intonation étrange.
Elle était noyée, Yona.
Noyée ? L'aiguille hoche la tête, un petit sourire aux lèvres.
Elle s'est noyée à bord d'un bateau.
Quelqu'un l'a sans doute trouvée dans l'eau et l'a hissée à bord.
Oui, mais dans ce cas, je ne t'aurais pas dérangé.
Alors de quoi s'agit-il ?
Je n'ai pas décelé la moindre trace d'eau sur le corps. J'ai envoyé ses vêtements au laboratoire gouvernemental de la police technique et scientifique, mais à mon avis, ils ne trouveront rien non plus.
L'aiguille fait mine de consulter les notes relatives à l'examen externe préliminaire, tout en gardant l'œil sur son collègue pour voir s'il a réussi à éveiller sa curiosité. Yona est immobile, mais son visage s'est métamorphosé. Il observe maintenant le corps avec une attention toute particulière. Subitement, il extirpe une paire de gants en latex d'une boîte en carton et les enfile. Lorsque Yona se penche vers la jeune femme et soulève délicatement ses bras pour les examiner, la satisfaction de l'aiguille est à son comble.
« Tu ne trouveras pas de traces de violence, » dit-il d'une voix faible. « C'est incompréhensible. »